La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Merci parce que tu me remplis de toi. Cet esprit, revêt-moi. Revêt-moi du vêtement de gloire qu'elle tient. Revêt-moi de ton vêtement. Saisis-toi des paroles qui sortent de ma bouche et qu'elles soient tiennes, Saint-Esprit. Donne-moi les mots justes, les paroles adaptées et dispose par ta puissance le cœur de tes serviteurs, de tes servantes, de tous ceux-là qui sont là ce soir, qui se sont déplacés. Saint-Esprit, revêt-moi. Donne-moi ce manteau, ce vêtement-là qui est le tien, afin que c'est par toi, par ta puissance, que je puisse parler. Enseigne-moi et enseigne tes serviteurs et tes servantes en ce lieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes donc dans notre série d'enseignements sur 7 leçons pour prier efficacement. Amen. Ou encore 7 principes pour avoir une vie de prière efficace. Alléluia. Alléluia. Nous avons donc abordé plusieurs leçons. La première d'entre elles, c'était ceci. Apprenez à prier par l'esprit pour la leçon 1. La seconde, c'était à prier avec intelligence, prier avec intelligence et ferveur. La troisième, c'est prier de préférence avant le lever du jour. La quatrième, c'est faire de vos rencontres avec Dieu une coutume. Amen. La cinquième, c'est apprenez à rester seul avec Dieu. Apprenez à prier seul. Apprenez à rester seul avec Dieu. La sixième, c'est la progression ou le cheminement d'une prière efficace. Et nous sommes au niveau de la sixième leçon. Amen. Le cheminement d'une prière efficace est enseigné par Jésus. C'est-à-dire, quand je parle de la progression, c'est l'évolution dans la prière. Lorsque les disciples s'approchent de Jésus pour leur demander, pour demander au Seigneur, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Jésus va leur dire, « Lorsque vous priez, dites. » Et il va commencer à citer un nombre de choses, cette fameuse prière que nous avons appelée, comment on appelle cette prière? Le Notre Père. Amen. Mais si vous regardez les évangiles, vous n'allez jamais voir les apôtres répéter la même prière. Donc, Jésus n'était pas en train de leur demander de faire de cette prière-là une récitation. Ce qu'il était en train de leur dire, c'est que, voilà comment doit évoluer vos pensées dans la prière. Alléluia. Je vous ai dit que la véritable prière est en pensée. Amen. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas prononcer des choses dans ses lèvres. Parce que la prière commence dans vos pensées, mais vous devez prononcer des paroles. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Donc, je pense à une chose et je prononce dans ma bouche, je parle. Alléluia. Donc, la prière doit être aussi expressive. Il faut exprimer, il faut parler. Mais ça commence d'abord dans les pensées. Maintenant, comment doit évoluer mes pensées dans la prière? Comment mon cœur doit évoluer pour que ma prière soit efficace? Et c'est ce que Jésus-Christ a enseigné dans la fameuse prière du Notre Père. On va la reprendre tous ensemble, comme une grande famille qui connaît cette prière par cœur. 1, 2, 3. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom, que ton règne, que ta volonté, ah, vraiment, vous maîtrisez. Et vous maîtrisez l'affaire. Qui ne connaît pas ça? Dites la vérité. Amen. Ok. C'est pas une récitation qu'on récite constamment. C'est pourquoi je dis, même Jésus, lorsque vous le voyez prier à Gethsémani, il fait une prière, mais il ne dit pas « Notre Père qui es aux cieux ». Il dit « Père, délivre-moi ». Plus tard, on voit les apôtres prier. Ce n'est pas la prière là qu'ils récitent. Alors, Jésus était tout simplement en train de montrer à ses disciples un cheminement. Amen. Une évolution, une progression. Et cette progression-là, parce que si vous lisez les passages qui précèdent en Matthieu chapitre 6, il dit ceci, « Lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles ». comme les païens qui s'imaginent que c'est à force de paroles ils seront exaucés. C'est quoi les vaines paroles? Ce sont des paroles qu'on ne pense pas. Amen. Rappelez-vous le verset que je viens de citer tout à l'heure. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres. Ça veut dire, leurs lèvres prononcent certaines choses, mais leur cœur ne pense pas à ce qu'ils sont en train de dire. Amen. Si je dis une chose sans réfléchir à la profondeur de ce que je dis, ma prière est vaine. Alléluia. Alléluia. Il y a deux maris qui ont parlé de cela. On a dit, c'est pourquoi quand vous priez, il faut passer l'étape de la chair. Il faut passer l'étape de l'âme pour, dans l'esprit maintenant pour commencer à peser les paroles dans leur profondeur. Donc, et on a dit ceci. Donc, Jésus nous dit que lorsque vous priez, dites notre Père. Ça, c'est ce que nous avons étudié la dernière fois. Dis avec moi, notre Père. Notre Père. Alors, là, le Seigneur nous montre ceci, c'est que quand je m'approche de Dieu, il y a différentes façons. Je peux m'approcher comme un serviteur, comme un esclave, ou je peux voir en Dieu mon papa. Ça fait une différence dans les pensées. Alléluia. Ça fait une différence. Si quelqu'un... Parce que beaucoup de croyants n'ont pas encore réalisé que malgré le fait qu'ils aient donné leur vie à Jésus, Dieu est leur Père. Donc la dernière fois, je vous avais donné cet exercice. Plusieurs semaines se sont écoulées entre temps. Je vous avais dit, n'allez pas faire beaucoup de prières. Pensez en priant à Dieu, mon papa. Méditons un peu là-dessus. Dieu est ton papa. C'est ce qu'il dit. Il dit, quand vous priez, dites, papa. Parce que je peux dire notre Père, mais dans ma pensée, je viens devant le roi. Vous savez, non? Vous voyez? Je peux dire mon père du bout de mes lèvres. C'est pourquoi il dit ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Le cœur, ce sont les pensées. Donc, si je dis quelque chose et que mon cœur ne réalise pas ce que je suis en train de dire, mon cœur est éloigné. Donc, j'appelle Dieu mon papa. Autrement dit, quand tu arrives, papa. Papa. Alors, quand tu réalises profondément que Dieu est ton papa, ça change ce que tu peux lui demander, la façon dont tu te tiens, la manière dont tu lui parles dans tes pensées. Amen. On a donné pour exemple les deux fils dans l'histoire du fils prodigue. Amen. Où le premier, qu'on appelle donc le fameux fils prodigue, qui s'est éloigné de son père, qui a dit « Donne-moi mon héritage ». Et il est parti, il a dilapidé son héritage. Ce fils-là, il a péché, il a fait ce qui n'est pas bien. Son père a dit « Mon fils était mort, voici il est revenu à la vie ». Mais ce fils-là avait une meilleure perception de son père que le second. Il est parti. La Bible dit que, quand vous lisez le passage, leur papa a séparé l'héritage en deux parts. Il a donné au fils prodigue et il a remis aussi au fils qui est resté dans la maison. Le fils prodigue a une mauvaise attitude, il va et dilapide tout. Mais lorsqu'il revient, regardez ce qu'il dit. Il dit, je vais aller chez mon père pour chercher un serviteur. Et il dit à son papa, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Ah, j'aime bien cette phrase. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Ça veut dire quoi? Que il réalise que je suis ton fils. Mais je ne me suis pas comporté comme tel. Or, nous, dans notre esprit, c'est l'inverse. Nous sommes des esclaves. Pas des fils qui perdent le privilège de fils à cause de leur péché. Mais nous sommes des esclaves dans notre tête. Et lorsqu'on arrive, on a même peur de dire papa dans nos pensées, parce que en nous, on est juste des boys. Alléluia. Ça ne veut pas dire que le fils ne sert pas le père. Bien sûr, un fils, c'est serviteur du père. Mais il n'est pas serviteur au même titre que les autres. C'est pourquoi il dit ceci, quand vous servez votre père, il dit, servez-le, puis il dit, je t'ai servi simplement. Amen. Alléluia. Mardi, il y a deux mardis, nous avons enseigné là-dessus, et je vous ai dit de prendre le temps et de méditer attentivement sur cette notion. Amen. Tandis que le fils qui était resté dans la maison, lui, il ne saisissait pas la notion de père. Lorsque son frère est revenu, et que son père a relevé le jeune frère, voilà ce que le grand frère dit. Je suis toujours avec toi dans la maison et tu n'as jamais rien tué pour moi. Le papa lui dit, mais... Ça veut dire que le grand frère était dans la maison, il est fils, mais il se prenait comme tous les autres esclaves à qui le père doit donner les bœufs. Il dit, j'ai travaillé pour toi, mais depuis là, tu ne me donnes pas un salaire. Et le père lui dit, le père lui dit, mais mon fils, le veau gras là, c'est aussi à toi. Tu peux le prendre, tu n'as pas besoin de me demander. Tu es mon fils. Alléluia. Donc, ceux qui, dans leur esprit, sont des serviteurs. Le pasteur Ivan, dans son message, en a parlé. Ceux dans l'esprit qui sont des serviteurs, ça veut dire, ils voient les prières et les jeûnes comme des moyens d'acheter Dieu. Et dans leur esprit, il dit ceci. J'ai jeûné, prié, veillé. Et c'est un petit païen qui vient d'arriver là que tu as exaucé. Ça, c'est la prière de ceux qui disent pas notre Père dans leur cœur. Ils disent notre Père du bout des lèvres, mais leur cœur ne dit pas notre Père. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'en fait, ils ont l'impression que s'approcher de Dieu, c'est une affaire d'acheter. Par le nombre de prières et de jours de jeûne. C'est pourquoi il y a des personnes qui arrivent à l'église. Toi, tu as fait 40 millions d'heures de prières pour acheter ton mariage et tes enfants. Tu es venu déposer. J'ai prié, j'ai prié. Et puis, il y a un petit nouveau chrétien qui s'est converti et il arrive. Seigneur, je vais me marier la semaine prochaine. Mariage de la soeur. Tu dis, ah, Dieu, depuis là, je suis avec toi. Tu n'as pas tué le veau gras. Ou encore, tu ne m'as pas encore donné la personne. Or, moi, je suis un fils plus digne que l'autre. C'est ce que le grand frère est en train d'essayer de dire. Nous donnons le don de fils, mais il y a un fils plus digne. Quand vous savez, quand vous, votre cœur saisit la notion de fils, vous savez qu'en fils, il n'y a pas une affaire de dignité. Tu es né de papa, tu es né de papa. Tu ne peux pas dire de ton petit frère, je suis meilleur fils que toi. Ça n'a pas de sens. On n'est pas meilleur fils. On peut être meilleur serviteur qu'un autre serviteur. Mais on ne peut pas être un meilleur fils. On est fils, un point, un trait. On est fille, un point, c'est tout. Amen. C'est au niveau du service qu'il y a une notion de mérite, mais pas une notion de fils. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi j'ai commencé mes propos en disant beaucoup de païens sont exaucés, souvent même par rapport à des chrétiens, parce qu'ils viennent avec un cœur qui est pur. Tandis que nous venons avec un cœur de serviteur qui vient acheter Dieu. On dit, mon frère, j'ai un programme dangereux. Je veux rentrer dans 40 jours de jeûne. Beaucoup de gens rentrent dans des moments de jeûne, mais ils ne sont pas exaucés. Parce qu'en fait, ils voient le temps de jeûne comme de l'argent. Ils arrivent devant le maître. Un jour, ça peut acheter l'entreprise que je veux monter. Ils ont l'impression que Dieu dit, non, ce n'est pas encore suffisant. 3 jours, ça te va? Il dit, non. 4 jours de jeûne, tu n'es pas satisfait? Bon, je mets 4 jours de jeûne, j'associe les pasteurs, je t'envoie mon sujet de prière à tous les intercesseurs. Nous tous, nous prions. C'est bon maintenant, là, tu peux exaucer? Dieu dit, tu ne comprends rien. Quand tu pries, commence par papa. Un fils n'achète pas papa. Un fils n'achète pas. Imagine-toi ton enfant qui vient vers toi et puis il te propose de l'argent pour boire de l'eau dans la maison. Papa dit, non, je ne te donne pas. Il dit, mais papa, ça coûte combien ton réfrigérateur? On dit, mais comment? Tu sors l'argent. Mais ça n'a même pas de sens devant le Père. Il y a des prières qui sont insensées. Tu dis, commence par mon Père. Réalise ce que tu dis. Tu m'appelles ton papa et tu me parles de m'acheter. Tu me parles de m'acheter. Tu veux m'acheter avec quoi? Quand tu entres en prière, ce n'est pas pour m'acheter. On discute. On parle. Tu rentres, c'est juste un moment de parole pour que je te donne les directives. Pour que je te forme, pour que je t'enseigne, ta prière ne m'achète pas. Quelqu'un me comprend-il? Dis avec moi, notre Père, Papa. C'est comme ça Jésus nous a appris à prier. Quand vous priez, dites Papa. Alors il dit, deuxièmement, dites ceci, Papa qui est au ciel. Dis avec moi, notre Père qui est aux cieux. Amen. Le psaume 115, verset 3 dit ceci. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2 dit ceci. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. Donc, notre Père qui est au ciel. Ah, on récite souvent ces prières-là, hein? Mais il faut penser. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur était loin de moi. Tu dois honorer Dieu avec tes lèvres, avec un cœur qui pense à ce que tu dis. Donc, Père qui es au ciel. Vous savez, le ciel, donc quand tu dis il est au ciel, tu parles de son lieu d'habitation. Et tu sais, le lieu d'habitation détermine quelquefois un peu la puissance des frappes de celui qui a... Est-ce que vous comprenez? Vous voyez sa puissance d'action. Lorsque par exemple, tu es là et puis tu parles de quelqu'un, tu dis, il est dans tel pays. Si c'est un pays qui est puissant, les gens te disent en même temps, mais il n'a qu'à t'aider. Il y a d'autres pays encore, si tu dis, il est dans tel pays, on ne va même pas te demander, mais il n'a qu'à t'aider. Est-ce que vous me suivez? Ça dit, tu es en Côte d'Ivoire. On dit, où est ton oncle? Je ne vais pas citer des pays. On dit, il est dans tel pays. Tu n'as même pas envie de lui dire, mais il n'a qu'à t'aider. Maintenant, on vient encore, on dit, où est ton frère? Et puis tu dis encore, il est dans un autre, tu dis un tel pays. Ça veut dire, le fait même qu'il soit là-bas, là, ça veut dire, on suppose qu'il a payé l'avion, et puis là-bas, c'est difficile de jouer. En même temps, on te dit, qu'il résolve ton problème. Donc, quand tu commences la prière, Dieu dit ceci. Je suis ton papa. Mais vois où ton papa est. Notre Père qui est dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Alors, le lieu d'habitation montre les circonstances ou bien l'atmosphère ou l'environnement dans lequel se trouve la personne. Et en fonction de cet environnement, tu es capable de déterminer ce qu'il peut faire. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez, non? Voilà. Bon, c'est pareil même à Abidjan ici. Si on te dit, où habite ton oncle? Quand tu dis le quartier, ça a une influence quand même. Et tu sais, s'il habite dans tel quartier, tu sais à peu près quel genre de problème il a. Et quand Dieu te définit qu'il est au ciel, il veut que tu réfléchisses. Il dit, ça veut dire, je ne suis pas sur la terre. Ça signifie tout simplement que les problèmes que tu as sur la terre ne sont pas mes problèmes. Je suis au-dessus. Si dans votre esprit, quand vous rentrez en prière, vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas dans vos pensées à voir Dieu au-dessus de tout, vous allez avoir peur des choses que vous allez lui demander parce que vous le sentez lui-même limité. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. C'est-à-dire, toi Dieu est où? Tu veux venir lui demander 50 000 francs. Mais si tu imagines dans ton esprit, dans ton subconscient, que Dieu habite, il est dans le problème. Toi tu es dans un quartier, ou même pour avoir 10 000 francs, c'est compliqué. Et dans ton imagination, tu crois que Dieu habite avec toi dans ce quartier. Donc quand tu veux lui demander 100 000 francs, tu as peur. Seigneur, je te dis un montant. C'est sérieux, hein? Tu dis, c'est combien? Est-ce que tu peux me donner pour aller à l'école 100 000? En même temps, tu trembles. Parce que pour toi, c'est énorme. Tu vois, ta foi est limitée par les réalités dans lesquelles tu vis. Et tu crois que c'est impressionnant pour Dieu. Ce n'est pas impressionnant pour lui. En fait, le montant ou la force que Dieu va déployer pour toi n'est pas fonction, n'est pas parce qu'il est limité. C'est tout, il va te donner des choses par rapport à l'éducation qu'il te donne. Par exemple, il dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, je ne te donnerai pas les grandes. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas te donner les grandes. Il est au ciel. Il n'a pas de problème. Alléluia. Il est au ciel. Donc, s'il ne le fait pas, c'est tout simplement parce qu'il estime que tu n'es pas prêt à gérer telle chose. Ce n'est pas par limitation. Mais la manière dont tu vois Dieu détermine ce que tu peux avoir de lui. Et ça galvanise ta foi
ou ça tue ta foi. Lorsque David s'est confronté à Goliath, regardez, dans l'enseignement sur les cinq pierres de David, j'en parle. Israël, pour aller en guerre, faisait toujours des prières. Ils invoquaient l'Éternel. Ils parlaient à Dieu. Dieu, donne-nous la victoire. Et quand ils arrivent devant les Philistins, ils rencontrent un homme dont la taille fait près de 3 mètres. 3 mètres de hauteur. Les muscles impressionnants. La cuirasse qu'il porte sur sa poitrine fait près de 50 kilos. Ça veut dire, le monsieur se balade comme rien avec un sac de riz sur la poitrine. Sac de riz de 50 kilos. Lui, il prend ça pour se promener comme ça. Sans sueur. Ça, c'est son habit, sa chemise, ça dit ça, sa cuirasse. 50 kilos. Mais le monsieur est baraqué, frère. Alors, Israël le regarde. Et eux tous commencent à trembler. Quand ils s'apprêtent à se battre, la Bible dit que Goliath sort. Quand il sort, il dit, venez. Ça veut dire, les gens le regardent, ils voient sa paume. Parce qu'on dit, sa paume, sa lance, hein, c'était avec la taille de l'ensoupe d'un tisserand. Vous voyez, un poteau. Comme le poteau, sa lance là, c'est pas un bois, frère. C'est un poteau. Et il attrape la lance comme ça. Donc, lorsqu'il le regarde, il s'imagine, mais si ma tête tombe entre ses mains. Donc, quand les gens le regardaient, ils voient un cauchemar. C'est-à-dire, la Bible dit qu'ils venaient sur le champ de bataille, mais dès que Goliath sortait, eux tous reculaient. Je dis souvent, au lieu de le prendre, de le grouper, mais chacun imagine, et si c'est moi, quand on groupe là, c'est... Ah. Allez, mais c'est quel gars ça? Donc il le regardait avec effroi. Et tous les jours il fuyait. Lorsque David est arrivé, David n'a même pas mentionné la taille, ni la forme, ni la grandeur de Goliath. David ne l'a pas comparé à lui. David l'a comparé à son père. Alors lorsqu'il a vu Dieu, si Goliath fait 3 mètres, imagine la taille de Dieu. Il voit un Dieu grand. Et c'est ça la notion du Dieu qui est au ciel. Il voit un Dieu puissant. Il voit celui qui a créé le ciel. C'est ça, quand on dit Dieu est au ciel, David observe l'univers. Il dit, vous voyez les étoiles? C'est lui qui les a faites. Tu vois les fleurs là? C'est lui. Et puis en même temps, il regarde Goliath. En ce moment-là, quand vous mettez Dieu et vous mettez Goliath, vous voyez comment Goliath est petit? Vous savez, c'est ça qui fait la différence dans une prière. Comment vous voyez Dieu quand vous priez? Alléluia! C'est le même personnage, c'est la même opposition, c'est le même obstacle. C'est des mêmes hommes d'Israël aussi, avec Saül, qui prie aussi Dieu, et David qui arrive. La différence qu'il y a eu entre eux, c'est qu'est-ce qu'ils regardaient d'abord. Est-ce que vous regardez Goliath qui est sur la terre, ou vous regardez l'Éternel qui est au ciel? Alors Dieu dit, quand vous faites la prière, en parlant de la prière de notre Père, il ne dit pas, il dit, ne commencez pas par exposer vos besoins. C'est pourquoi la prière ne commence pas. Père, donne-nous notre pain quotidien. Dieu dit, si tu pries, tu vas voir la difficulté de la journée, les problèmes, comme Abidjan est dur là. Et c'est quand tu as fini d'observer la dureté d'Abidjan, tu viens, donne-moi mon pain quotidien. Alors, comme tu vois la souffrance pour obtenir le pain quotidien, tu as l'impression que Dieu est soumis à la même souffrance pour pouvoir t'apporter le pain quotidien. Dieu dit, tu ne seras pas exaucé. Fais comme David, rentre d'abord. Dis, ton papa, il n'est pas à Abidjan. La galère d'Abidjan, il ne la connaît pas. Il est au ciel. Abidjan, on dit qu'il y a délestage. Au ciel, il n'y a pas de délestage. Il est au ciel. Abidjan, la vie est dure. Mais lui, il est au ciel. Et c'est ce que David voyait. Alléluia. Alors quand David a regardé Goliath, il a vu un tout petit Goliath comme un oiseau. Donc quand Saül voulait lui donner des épées, David a enlevé tout ça. Et puis il est parti prendre un lance-pierre. Parce que c'était un oiseau. Bon, il a pris une fronde. C'est comme un lance-pierre. Donc il arrive. Et Goliath, 3 mètres de hauteur. Il dit, mais toi là, tu te fous de moi. Mais qu'est-ce qu'il regardait? David voyait un grand Dieu. Et il ne voyait plus la taille de Goliath. C'est ça, notre Père qui est aux cieux. Dieu est grand. Si vous n'apprenez pas à lever les yeux dans votre prière, si vous priez en regardant seulement la terre, vous allez être effrayé par les circonstances. Vous allez être effrayé par les bruits. Vous allez être effrayé. On te dit, non, par exemple, ce patron qui est là, il est mauvais. Avec lui, tu ne peux pas réussir. Mais Dieu n'est pas soumis à ton patron. Dieu est au ciel. Ton patron est en dessous. Dieu n'est pas intimidé. C'est toi qui peux être intimidé. Qui regardes-tu quand tu pries? Lorsque tu commences à demander à Dieu, je veux travailler, tu regardes quoi? La réalité du travail en Côte d'Ivoire qui est difficile, ou la réalité céleste? Au ciel, il n'y a pas de problème de chômage. Alléluia. Si ton père est le président, ton père est à la présidence, que tu as un diplôme de CEP, et puis une autre personne qui a le même diplôme de CEP, et son père n'est pas à la présidence, son père, il a une petite boutique. Est-ce que vous voyez que ça fait la différence entre celui qui a le CEP dont le père est à la présidence? Donc lorsque celui-là va déposer ce dossier, lorsqu'il dépose, il ne regarde pas la réalité du diplôme. Il regarde mon père qui a la présidence. Son père qui a la présidence plus CEP dans une entreprise, ça fait une différence. Vous me suivez? Ton père qui a une boutique plus CEP, c'est pas la même chose. Donc, toi, ton père est au ciel. Plus toi, ça fait largement la différence. Vois toujours Dieu qui est au ciel. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. C'est ce que Dieu te demande dans la prière. Quand vous entrez en prière, ne commencez pas par exposer vos besoins. Vous allez douter. Ne commencez pas par expliquer à Dieu les problèmes d'Abidjan. La vie est dure, Seigneur. Regarde, mes parents ont ceci. Je n'ai pas eu... Regarde, oh Dieu, comment je souffre. Je voulais partir à l'école. Je n'ai même pas eu l'argent pour payer mes études, Seigneur. Aie pitié. Tu fais pitié, Seigneur. Et toi, tu regardes Dieu, tu fais pitié. Père, regarde-moi. Dans l'église ici, plus personne même ne se marie. J'ai 45 ans. Bientôt, je ne peux plus avoir d'enfants. La science dit, la ménopause, c'est à quel âge? 40 ans, non? 20, 50 ans. La science dit, quand j'aurai 40, 45 ans, je ne peux plus espérer avoir d'enfants. Oh Dieu, aie pitié. Ta prière est mauvaise. La même prière, Père, toi qui es dans le ciel, qui a fait enfanter Sarah, parce que tu n'es pas limité par la science des hommes. Les hommes disent ceci, mais toi, Dieu, tu règnes dans le ciel. Et, alléluia. Et maintenant, quand tu vois la grandeur de Dieu, et puis tu viens, tu poses ton problème. Tu vois que ton problème est tout petit devant un grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout le monde dit ici, on dit, mon frère, quand on a nommé ton parent ministre, tu as l'impression que tu dis que tu es sauvé. Les gens disent, mon frère, on apprend, on donne le nom. Ministre, quand on cite, toi-même tu l'entends, tu dis, mais c'est mon oncle. C'est-à-dire, tu as l'impression que ta situation a déjà changé. Simplement à cause de la position de ton oncle, de ton père. Dieu dit, il y a une position qui est la plus supérieure, c'est le ciel.
Parce que même ton oncle, même il y a des limites. Même ton père, il y a des limites. Parce que même si elle a la présence, c'est la présence de Côte d'Ivoire. Et elle ne peut pas tout faire. Mais le ciel est au-dessus de tout. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, lorsqu'ils étaient dans la barque avec lui, lorsque le vent était en train de souffler contre la barque, les disciples se sont levés, ils ont revu en disant, Maître, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Jésus s'est levé, il a menacé le vent. Et il a dit ceci, où est votre foi? Où qu'il a utilisé? Adverbe circonstanciel de lieu. Où est votre foi? Pour dire comme Jean, où est ta maison? Voilà. C'est ce que Jésus n'a pas dit qu'il n'avait pas la foi. Regardez le où, hein, c'est avec accent. Il a dit, où est votre foi? Autrement dit, les disciples avaient la foi. Mais il leur a demandé où elle est. Parce que les disciples, Jésus était dans la barque. Et ils ont commencé à regarder la tempête. Ils ont mis leur foi dans la tempête et dans leur expérience de la tempête. La tempête qui souffle, mais elle est dangereuse. L'apôtre Pierre, qui est expert en pêche, se rappelait du nombre d'amis qu'il a perdu en mer. Quand il a vu, quand eux tous se sont rappelés, ils ont commencé à pleurer. Oh, on est mort. Maître, maître, nous périssons. Jésus s'est levé. Il a dit, où est votre foi? Parce que s'il regardait Jésus, pendant que le vent soufflait, il dit, cet homme, il est Dieu. Il est le Créateur. Il est le Tout-Puissant. Alors ils allaient savoir qu'il est plus grand que la tempête. Et que la tempête ne pouvait plus rien lui faire. Il n'aurait pas eu peur. Où est votre foi? Dans la prière du Notre Père, on commence toujours par Papa qui habite dans le ciel. Quand vous méditez là-dessus, ça fortifie votre foi. Et vous êtes capable de regarder de haut tous les problèmes que vous allez après exposer à Dieu. Vous les regardez avec la bonne pensée, la bonne attitude. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis avec moi, Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Amen. On va dire rapidement aussi. Donc, que ton nom soit sanctifié. Alors, que ton nom soit sanctifié, ça fait ressortir trois choses. Ça fait ressortir trois choses. Premièrement, ça veut dire, il ne faut pas associer le nom de Dieu au péché. Le mot sanctifié, sanctification, signifie mettre à part. Mettre à part quelque chose. Donc, première chose, c'est ne pas associer le nom de Dieu au péché. Deuxième chose, c'est ne pas utiliser vainement son nom, sans révérence et sans but. Une chose qui est sanctifiée dans la parole de Dieu, c'est une chose qui est consacrée. C'est une chose qui a une valeur spéciale. Quand on dit quelque chose est sanctifié, ça veut dire que cette chose-là, je ne dois pas l'utiliser comme pour parler en ivoirien, comme ça fait rien. Sanctifier un objet, c'est le mettre à part. Amen. Donc, lorsqu'on dit un chrétien se sanctifie, ça veut dire il se distingue. Alléluia. Il ne va pas faire ce que tout le monde fait. Il ne va pas agir selon la civilisation commune. Il va être différent. C'est ça la sanctification. Amen. Et une différence, quelque chose qui nous distingue du monde, c'est justement le fait de vivre sans péché, sans iniquité, de vivre droit. Donc lorsqu'on dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire aussi, on ne peut pas utiliser ton nom en vain comme s'il n'était pas important. Amen. Donc que ton nom soit sanctifié, c'est la deuxième chose, c'est ne pas utiliser le nom de l'Éternel vainement, sans révérence et sans but. Troisièmement, c'est sans que le nom soit sanctifié, ça signifie aussi d'éviter la vulgarité et la familiarité. C'est vrai que Dieu est notre Père. C'est vrai qu'il est notre Père. Mais un papa, ça ne veut pas dire qu'on doit être vulgaire. Ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser séduire par ce que j'appelle la familiarité. Vous allez comprendre de quoi il s'agit tout de suite. Amen. Donc, première expression, donc, ne pas associer son nom au péché. Vous avez cela donc en 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 19. Il est dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alléluia.
Donc lorsque nous disons, Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire quoi? Que si Dieu est mon Père, son nom est invoqué sur moi. Amen. Et mon Père est un noble. Mon Père est un roi. Et je porte son nom. Donc, quand je dis que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que moi-même, je dois me comporter en fonction de ma famille. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire quoi? Si le nom de Dieu est invoqué sur toi, tu n'appartiens pas à la famille du diable. Tu dois tenir le nom de Dieu en respect. Et ça veut dire quoi que ton nom soit sanctifié? Ça veut dire, parce que le nom de l'Éternel est invoqué sur moi, je dois m'éloigner du péché, de l'impudicité, du mensonge, de la tricherie. C'est dans cette étape-là de que ton nom soit sanctifié que nous-mêmes nous profitons pour mettre notre vie en règle avec Dieu. Quand dans ma prière, je suis en train de penser, Dieu, toi qui es au ciel, papa, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que tu réalises, ma soeur, que lorsque tu l'appelles papa, tu portes son nom? Imagine-toi, quelqu'un en dit, c'est la fille du président. Le fils du président. Et puis tu vois, il se comporte n'importe comment. Ça fait honte au père. Toi-même, tu vas venir, tu vas dire à cette personne, mais toi là, quand même, tu es la fille, tu es le fils d'un tel. Mais tu gardes son nom. C'est ce qu'on dit. Tu gardes son nom. Ne gâtons pas le nom de Dieu. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, là, pose-toi la question. Est-ce que tu n'es pas en train de gâter le nom de Dieu? Est-ce que tu n'es pas en train de gâter ce nom? Et tu viens, lorsqu'on découvre même que tu es chrétien, on dit, ah, lui aussi, il parle de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, ça s'adresse d'abord à toi. Est-ce que je sanctifie le nom de Dieu? Viens, voisin, sanctifie le nom de l'Éternel. Dans ta manière de parler, sanctifie le nom de Dieu. Et lorsque vous avez cette attitude-là, je vous assure, quand vous rentrez en prière, même avant de vous lever, et que vous arrivez sur la partie du nom sanctifié, ça oriente votre journée. Ça oriente votre manière de marcher. Parce que vous sentez que vous portez un grand nom. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous avez suivi, par exemple, l'actualité dernièrement, par exemple, pour le joueur de golf Tiger Woods. Comme il a un grand nom, il a commis, fait l'adultère. Mais c'était un sacrilège. À cause de son nom. Son attitude, son comportement, l'excellence a fait qu'il a hissé ce nom-là à un certain niveau. Et lui, on peut tolérer ça. Si on prend un gars vulgaire dans la ville, on dit qu'il a trompé sa femme. Mais ce n'est même pas un événement. Mais, pour ce nom Tiger Woods, à l'époque, il y a eu les trucs du président Bill Clinton. Pour le nom qu'il a, il ne peut pas le faire. Donc, lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, ça signifie réalise de quoi tu parles. Dieu, là, son nom est grand. Ce n'est pas ton petit copain. Ne peux pas t'amuser avec le nom de Dieu. Dieu n'est pas ton camarade. Vous n'avez pas fait le CP1 ensemble. Fais attention. Non, non, non. Il y a beaucoup de gens qui prennent le nom de l'Éternel en vain. Il y a beaucoup de gens qui prennent le nom de l'Éternel. On m'a dit, je suis chrétien. Petit Christ, on ment, on parle mal. Et à cause de notre attitude, parce que nous ne faisons pas la prière en esprit, nous ne faisons pas que le nom de Dieu soit sanctifié. Le nom de Dieu est prononcé vainement. Les gens se moquent de Dieu. Lorsque nous prions, que ton nom soit sanctifié. Dis avec moi, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié aussi. Deuxièmement, ça signifie, n'utilisez pas le nom du Seigneur sans révérence. Je vais associer même au troisième point. Exode 20, verset 7 dit ceci. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Voilà. Ça, hein, que ton nom soit sanctifié, là, ça veut dire, faut pas être. Il y en a qui utilisent le nom de Jésus, on dirait. Un moustique t'a piqué. Jésus. Quelque chose est là. Jésus, mon frère. ce que tu vulgarises n'a plus de puissance. Que ton nom soit sanctifié. La Bible dit que celui qui prononce, c'est-à-dire que Dieu va juger ceux qui prononcent son nom en vain. Ceux qui s'élèvent, qui veulent escroquer les gens et qui prient le nom du Seigneur. Et puis avec ça, ils escroquent. Ils attirent sur eux une grande malédiction. Dieu va juger ceux qui prononcent son nom en vain. Ceux qui prennent le nom du Seigneur, des titres pastoraux, bishopal, archibishopal, et qui prennent ce nom-là, et qui vont se retrouver dans des bars, dans des maquis, avec les titres du nom de Dieu et pour faire des abominations, ils s'attirent contre leur vie un grand malheur. Mes amis, on peut faire palabre avec un homme, mais Dieu, quand il se fâche, qui peut plaider pour toi? Prenez garde. Mes amis, l'expérience de la foi, j'ai vu des hommes qui s'étaient moqués du nom de l'Éternel. Dieu est patient. Mais lorsque Dieu s'est levé contre leur vie, des personnes dans les églises, j'ai vu des frères qui ont porté des maladies bizarres. Des gens qui sont dans l'église et qui jouent, mais c'est comme une malédiction qui les suit. Tout ce qu'ils touchent est maudit. Dieu n'est pas ton petit copain. Prends garde. C'est pour ça qu'il dit, ton père, mais il ne faut pas prendre son nom en vain, parce que c'est un roi. Et la malédiction de Dieu, le malheur de Dieu, est sur la vie de beaucoup de personnes. N'imitez pas ces soi-disant. Bon, peut-être que Dieu les a appelés, mais il y a une légèreté, une vulgarité qui a commencé à entrer dans l'église. Bon, elle est là depuis des années. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, respectez son nom. Respectez son nom. Alléluia. Respectez ce nom qui est invoqué dans votre vie, qui est invoqué sur votre vie. Ne l'utilisez pas en vain. Ne le prenez pas pour un amusement et des copains. Jésus, Jésus. Au nom de Dieu, je jure. Au nom de l'Éternel, tu jures et puis tu triches, tu voles, tu mens. On se tient dans la présence de Dieu. On te dit, frère, parle de la part du Seigneur, dis la vérité et tu mens. Ceux qui prennent le nom de Dieu en vain, ceux qui inventent les prophéties. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Tu es mon mari, tu es mon mari, Dieu me l'a dit. Prends garde. Ainsi dit Dieu. Tu veux utiliser le nom de Dieu pour abuser les gens, pour escroquer les personnes. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas une personne que tu es en train de tromper. Tu es en train de chercher palabre à Dieu. Pasteur, au nom de Dieu, je suis quelqu'un de sérieux. Au nom de Dieu, au nom de Dieu. Il y en a qui disent au nom de Dieu. Parce que comme Dieu ne les a pas déjà frappés, ça va. Au nom de Dieu, je jure. Je suis quelqu'un de bien. Prends garde à toi. Si tu poses ces actes, répands-toi, change de vie. Amen. Prends le nom de Dieu en vain. C'est aussi, donc j'ai dit, éviter la vulgarité et la familiarité. Dans Matthieu chapitre 13, verset 57, il est dit, et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Alléluia. Donc lorsque nous disons, que ton nom soit sanctifié, comme j'ai dit tantôt, ça veut dire, il ne faut pas utiliser le nom du Seigneur en vain. Quel était le problème de Matthieu 13, 57? Il y a des hommes qui ont grandi avec Jésus, qui l'ont vu grandir. Et la Bible dit que lorsque Jésus est parti vers eux, il n'a pas pu faire beaucoup de prodiges et de miracles. Parce qu'il disait, mais celui-là, on le connaît. C'est le fils d'un tel, c'est le fils d'un tel. Alors qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire? Lorsque vous dites que ton nom soit sanctifié, il dit, si tu banalises le nom du Seigneur, dans le sens que depuis je suis chrétien, je connais l'Éternel, je marche avec lui, tu te prives de beaucoup de miracles, tu te prives de l'action de Dieu. La Bible dit que Jésus dans son village, dans sa région, dans son pays, n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Et il dit dans ce passage, un prophète n'est méprisé que dans sa nation. C'est-à-dire, là où les personnes l'ont vu évoluer, non, il n'est pas important. Et là-bas, Jésus n'a pas fait beaucoup de prodiges. Si tu deviens trop familier au Seigneur, tu utilises son nom vulgairement, tu le prends avec révérence, avec respect, tu ne seras plus à même de bénéficier de l'exaucement. Que ton nom soit sanctifié, précède aussi l'exaucement. Ça veut dire, tu dois voir le nom de Dieu grand. Tu dois voir le nom de Dieu puissant. Si tu l'utilises vulgairement, tu vois, il sera trop faible. Tu dis ça pour n'importe quoi. Un oiseau passe. Au nom de Jésus, quand les vrais problèmes sérieux vont venir, toi-même, tellement tu utilises ça familièrement, tu vas pouvoir bénéficier de la puissance qui est dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui se passait avec les parents, les propres parents de Jésus. Un jour, Marie s'est approchée de lui avec ses frères pour dire, appelez Jésus. Jésus a donné cette parole parce que Jésus a voulu le faire pour sauver même ses propres parents. Il a dit à ses parents, mon père, ma mère et mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en application, qui l'appliquent dans leur vie. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Plus tard, Marie et les frères vont croire vraiment en Jésus. Ils vont croire qu'il est le Messie. Tant que dans leur esprit, ils voyaient petit Jésus. Mais petit Jésus, là, il ne peut pas faire des prodiges. C'est un enfant. Mais quand tu vois Jésus-Christ, Fils de Dieu, quand c'est ce à quoi tu penses, quand tu ne prends pas son nom faiblement, mais dans toute sa puissance, ta foi est grande et ça devient efficace. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que ton nom soit sanctifié. C'est ce que cela signifie. Alors quand je suis dans la prière, nous nous arrêtons là. Mon Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Je regarde ma vie. Est-ce que je glorifie son nom? Est-ce que je ne suis pas rentré? Ça veut dire, regardez par exemple l'église, hein. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'église vulgairement. On vient, oh, c'est la maison de Dieu. Quand vous respectez le nom de Dieu, quand vous rentrez même dans l'endroit où on invoque, est-ce que vous savez que tu ne peux même pas prendre un papier et puis jeter ça par terre? C'est ça prendre le... Ça dit, il y a des fois, vous êtes tellement habitué à Dieu que vous faites les choses un peu à l'âge, je m'en fous. Ne rentrez pas dans cette légèreté. C'est ce qui a tué le nommé Uzza. Il avait, son père était celui qui gardait l'arche. Donc depuis qu'il est enfant, il jouait avec l'arche. David a fait monter l'arche un jour. Et l'arche était en train de tomber. Uzza s'est levé pour empêcher. Dieu l'a frappé de mort. Les gens n'ont pas compris pourquoi. Tu ne sais pas le jour où l'Éternel va s'élever. Ce n'est pas parce que tu arrives dans la maison de Dieu, rien ne se passe pendant des années, que tu vas finir par croire que, oh, on s'en fout de Dieu. On est là, on ment, puis on vient, on prie. On fait n'importe quoi, fais attention. Prends garde. Ne laisse pas la familiarité te rendre vulgaire. Hein? Ça va t'empêcher de vivre la puissance et la grâce de Dieu. Alors quand tu prononces que ton nom soit sanctifié, tu donnes toute la valeur au nom de Dieu. Quand tu dis que son nom soit sanctifié, ça veut dire, tu mets son nom au-dessus de tout. Tu le mets à part. Tu n'associes pas à son nom le péché, le mensonge, l'iniquité. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, tu n'es pas comme les sept fils de Sceva qui viennent au nom de Jésus que Paul prêche. Ils pensent que c'est une formule magique. Non. Les démons les ont frappés. Ils ont utilisé le nom de Jésus. Mais ils n'ont pas sanctifié le nom de Jésus. Vous me comprenez? Ils ont prononcé Jésus, mais ils n'ont pas sanctifié. Le démon les a regardés, les a frappés. Le nom de Jésus, là, c'est pas une formule magique. Je termine avec ça. Quelquefois en délivrance, avant je ne comprenais pas. Je pensais que c'est le nom de Jésus là. C'est-à-dire Jésus. Il y en a qui s'appellent Jésus. Il y a des gars à Abidjan qui s'appellent Jésus. Mais va prendre Jésus là, ça ne fait rien. Tu vois, ce n'est pas le nom Jésus qui fait des miracles. C'est ce à quoi tu penses en prononçant le nom Jésus. C'est ça, sanctifier le nom. Vous me suivez? Donc, il y a un journaliste, comment il s'appelle là? Jésus, comment? Voilà, Jésus Kouassi. Si tu penses à Jésus Kouassi et tu viens devant un démon, tu dis au nom de Jésus, mais dans ta tête c'est Jésus Kouassi, le démon va te gifler. Mais le même nom de Jésus, si tu viens et que tu dis au nom de Jésus, mais que tu penses au Créateur, que tu penses à celui qui a marché sur les eaux, que tu penses au roi de gloire, que tu penses à l'agneau de Dieu, quand tu prononces Jésus, il y a de la puissance. C'est pourquoi la Bible dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. Toute la force de la prière vient de l'esprit. Je pense à quoi? quand je dis le nom de Jésus? Est-ce que je le sanctifie? Si je le sanctifie, j'obtiens quelque chose de puissant. Si je ne le sanctifie pas, quand je vais prier, donne-moi la nourriture au nom de Jésus. Tu penses à quel Jésus? Jésus que tu dis dans la rue tous les jours. Jésus. Et laisse-moi au nom de Jésus. Il y en a qui prennent le nom de Jésus pour s'amuser. La Bible dit par exemple, on va imposer les mains. Les gens, il y a des frères qui sont là, non, on va t'imposer les pieds. Si vous vulgarisez la Bible, la parole de Dieu n'a plus de pouvoir. Parce que c'est qui a de la valeur? C'est pas la formule, c'est ton esprit. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit. La force vient de l'esprit et non du bout des lèvres. Ne prenez pas la Bible pour vous amuser. On prend les gens, et le pasteur a dit des choses, et puis on prend, puis on rit, on se moque avec ça. Quand vous commencez à agir de la sorte, vous rendez le nom vulgaire. Et une fois que ça devient vulgaire, ça devient pour vous une plaisanterie. Ça n'a plus de puissance. Donc, Jésus dans le quartier, tout le monde appelait Jésus. Jésus, Jésus. Quand il est arrivé, il est venu faire des prodiges. Les gens, ils voyaient Jésus, mais le petit Jésus du quartier. Ça bloquait carrément leur miracle. Le même Jésus, dans un endroit, il ressuscite les morts. C'est le même nom. Mais la façon dont la population considérait le nom a eu une incidence sur ce qu'ils ont obtenu. Tu n'as pas souvent des prodiges. Tu pries au nom de Jésus. Mais parce que tu n'as pas sanctifié le nom dans la procession de notre Père, le nom n'a plus de valeur. Tu chasses les démons au nom de Jésus. Les démons t'attaquent même. Tu dis, hey, c'est quel nom ça? Parce que tu prends le nom vulgairement. Tes camarades parlent, je vais t'imposer les pieds. Je vais te gifler dans le nom de Jésus. Je vais te faire une gifle sanctifiée. Des propos comme ça. Quand le diable va te poursuivre. Pendant que tu pries, au nom de Jésus, le diable arrive. Au nom de Jésus. Tu dis, ouais Jésus, tu n'as pas sanctifié le nom de Jésus. Tu l'as pris comme un amusement. Maintenant, voici les problèmes. Tu te lèves contre la tempête. Au nom de Jésus, tempête, arrête-toi. La tempête te regarde dans les yeux. Tu dis, tu parles de quel Jésus? Jésus quoi si? Parce que toi, tu as pris le nom de Jésus comme le nom de Jésus quoi si? Pas le nom du Créateur. Car si tu voyais le nom du Créateur, tu allais le faire avec respect, avec révérence. Et quand tu le fais avec révérence, alors quand tu t'arrêtes, tu dis, au nom de Jésus. Toi-même pour toi, waouh, ce nom est fort, ce nom est grand. Tu as de la révérence. Alors, le diable, les démons voient que toi-même, tu respectes ce nom. Tu dis, au nom de Jésus, va-t'en. Et tout le monde suit parce que tu mets dans ce Jésus la foi, la passion, la vision. C'est ce qu'on appelle prier en esprit, parler en esprit, sanctifier le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. On va parler au Seigneur. On va prier le Seigneur. Parlons à Dieu. Seigneur, apprends-nous à prier. Rends notre prière efficace. Pardonne-nous chaque fois que nous avons prononcé ton nom en vain. Apprends-nous à prier. Père, enseigne ton peuple. Révèle-toi à nous. Ouvre nos yeux pour percevoir et pour saisir cette parole dans sa profondeur. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais et pour ta grâce divine dans nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On peut donner gloire à Dieu si ce soir le Seigneur nous a parlé. Alléluia.
Cet air que je respire. Papa dit ce terre que je respire, ce terre que je respire. Ta présence, c'est ta présence qui vit en moi, qui vit en moi. Écoute ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, mon bien de chaque jour. Le pain de chaque jour, c'est ta parole donnée, donnée pour moi et moi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi.
Nous voulons nous tenir debout.
Je suis perdu sans toi.
Je suis perdu sans toi, Seigneur. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Tu es la vie.
J'ai
besoin de toi. Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. Seigneur mon Dieu,
j'ai tant besoin de
conduis
toi.
Conduis mes pas, oriente moi. Conduis mes pas,
j'ai tant besoin de toi.
Conduis mes pas, oriente moi. Apprends-moi à vivre. J'ai tant besoin, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je le reconnais, j'ai besoin de toi. Je reconnais que par moi, je ne puis rien faire. J'ai besoin de toi.
Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je reconnais mes limitations, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Soif de toi, j'ai soif de ta présence, j'ai soif de ta présence.
J'ai besoin de toi.
Je reconnais mes limites, mes incapacités, Seigneur Dieu, et j'ai les yeux sur toi.
J'ai soif de toi.
Pour parler, pour manger, pour marcher, en tout, dans tous les domaines de la vie, j'ai besoin de toi, Seigneur.
J'ai soif de ta présence.
Ah Seigneur, oui, j'ai besoin de toi, j'ai soif de ta présence. Tu es tout pour moi, j'ai besoin de toi.
J'ai soif de ta présence.
Seigneur, j'ai besoin de ta présence. De toi, mon Dieu, mon roi. Rianda bobo chatare de bros. Pride de l'onde le babai de red le babai. Rianda bobo bobo chetele de mos. Pride de gloria da bradice de mo. Rianda bloro. Shibaraya. Rianda boro lo satara baba. Rianda boro lo chede gosa. I the red of the bike, Rian the Borolo Spite, the red of the Rian the Bosheboye, I the one my baba, Rian Baba Baba, oh, Sevara Rian the Red of the Rian the Blorish, my the red, I the world, Rian the Paralma, Rian the Blos, and the West, my the red, fly the host, Rian the Bosh, man, the Red of the Wall, Shababa Yente Red, I the Brodle, oh, Kaleidos, my bro. Rianda la Rianda Mosh, Rianda Bara la Head the Race, Pride Gloria on the Foro Mashe Babaya, Yonto Wevo, by the Breaking the Light, Eliva by the Schmider Ways, I the Wind of my Lord, Ibaba Yonto Wevo, I the Wind the Light, the She, Eril Hide the Wind my Voice, Eril Hide the Red of Pies, my Bohai, Bia Bohan, Levava Yes, I do Light the Rada Bros. Rian da Brais, Riva Bai, Rian da Bros, Bai de Gloria, La 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 La, Rian da Brais, Bai de Chou, Riva Bai de Lot, Bai de Wera de Bai. Ah, j'ai tant besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi.
J'ai tant besoin de toi,
besoin de toi, Seigneur, besoin de toi. Nous voulons acclamer sa majesté, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, l'auteur de toutes choses, l'auteur de tout ce qui existe, celui qui a amené toutes choses à l'existence. Le Dieu Tout-Puissant, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, à lui soit la gloire, à lui soit l'élévation. La louange au siècle des siècles, Rian da Bros. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Béni sois-tu, Dieu des cieux. Sois élevé, Saint-Esprit. Sois élevé, Seigneur. Rian da Bros. Nous voulons nous remettre en tes saintes mains pour la suite de ce moment. Que ce soir, nous avons tellement besoin de lui. Sans lui, nous ne pouvons pas vaincre. Sans lui, il n'y a pas de champion. Sans lui, nous ne pouvons surmonter les oppositions, les obstacles de la vie. Sans lui-même, nous ne pouvons même pas respirer, même pas penser. Il est celui qui a créé nos pensées, celui qui a créé notre cerveau, notre être entier. C'est pourquoi, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Oh, 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 oh,
Acclamer ce grand Dieu qui nous amène à ce mardi des champions, le lieu où Dieu transforme des hommes et des femmes ordinaires en champions. Oh, 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 oh. Le tendre Dieu de victoire, celui qui est en nous. Alléluia. Ouais, ouais, ouais. Nous bénissons son Seigneur, nous acclamons ton Seigneur. Personne n'est comme toi, le champion des champions, le vainqueur des vainqueurs, celui qui triomphe de toutes choses, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Judas, le triompheur, le vainqueur, ah, le témoin fidèle, le témoin fidèle, le témoin fidèle, celui qui est le tout-puissant, celui qui dit une chose et cette chose arrive. Sa parole fait office de loi. Lorsqu'il parle, la terre fait silence, la nature fait silence, et elle se prosterne devant le roi, devant le tout-puissant. La Bible déclare qu'il est le lion, celui qui règne. Ah, il est le roi des rois. En sa présence, tout fait silence. Il est celui qui parle, il est celui qui a le dernier mot. Ah, c'est toi, c'est lui que nous acclamons. C'est pour lui que nous dansons. C'est pour lui que nous dansons. Et nous sortons des pas de danse à l'honneur du roi de gloire. À l'honneur de celui qui nous a sauvés, qui nous a rachetés par son sang. Il nous a lavés par son sang. Il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Oh, alléluia. Nos nombreux péchés ont été effacés à la croix. Par son sang, il nous a rachetés. Il nous a rachetés à un grand prix. À un grand prix, au prix de sa vie. Il a changé nos cœurs. Il a changé nos vies. Il a changé nos pensées. Il a changé toutes choses. Nous étions foués à la condamnation par nos œuvres. Par nos péchés, nous étions foués à la mort. Mais il a pris compassion de nous. Il a tendu son bras vers nous. Il a posé ses regards sur nous. Il est celui qui nous a lavés, qui a tendu son bras puissant. Il nous a pris de nos péchés. Il nous a lavés par son sang. Il a fait de nous de nouvelles créatures. De nouvelles créatures. Et nous sommes maintenant appelés fils de Dieu. Fils de Dieu. Nous lui appartenons. Nous faisons partie de son royaume. Nous sommes cohéritiers avec Jésus. Des grandes promesses. Ah, combien de fois c'est merveilleux.
Sois glorifié.
Ah, ce grand Dieu.
Sois glorifié.
Ce grand Dieu, ce grand Dieu. La mort n'a pas pu le retenir. Non, 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 non. Elle a essayé, elle n'a pas pu.
Sois glorifié.
La plus grande erreur que le diable a faite, ça a été de le crucifier. Il pensait qu'il l'avait eu.
Sois glorifié.
Mais Satan ne savait pas qu'il était en train de faire l'erreur fatale. C'est qu'il ne devait pas faire. Satan était déjà fatigué de le voir guérir les malades, changer les vies. Il a dit, il faut que je l'arrête. Jésus s'est laissé prendre et il était conduit, crucifié, lapidé. On a menti sur lui. Et il est parti. On l'a mis dans une grotte. Ah, Jésus est mort. Deux jours, oui un jour, et deux jours, dans la profondeur de la terre.
Sois adoré.
Et dans cette profondeur, Jésus s'est levé, il a marché, il a marché.
Sois adoré.
Il est entré dans le séjour des morts. Ah oui, dans le séjour des morts, il est allé voir la mort.
Sois adoré.
Le diable, la mort était là, en train de faire leur fête. D'avoir tué selon eux. Mais Jésus s'est avancé avec la puissance de Dieu dans le séjour des morts. Il a regardé toi dans les yeux la mort. Il a regardé toi dans les yeux le diable. Et il leur a dit ceci, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Donnez-moi la clé, donnez-moi la clé. Maintenant je la prends. La clé de notre condamnation. La clé qui nous tenait en prison. Il a arraché cette clé. Il a arraché cette clé. Ah! Un jour, deux jours. Et le troisième jour. Et le troisième jour.
Tout est accompli.
Le diable a fermé toutes les portes. Il a fermé toutes les portes. Il dit non, 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 non. Ne le laissons pas sortir. Mais Jésus avait pris la clé. Il a cassé la première porte. Il a brisé la seconde porte. C'est-à-dire, empêchons-le. Toutes les puissances de l'enfer se sont levées pour bloquer Jésus, pour l'empêcher de sortir.
Tout est accompli.
Ah, mais ce n'était pas possible. parce qu'ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Le juste, celui en qui il n'y a aucun péché. La mort n'avait rien en lui parce qu'il est saint, parce qu'il n'y a en lui aucune injustice. Et le troisième jour, les portes du tombeau se sont brisées. Jésus-Christ a ressuscité. Oh, il a vaincu la mort. Il nous a délivrés. Il a changé nos vies. Il nous a transformés. Il nous a libérés. Il est le champion des champions. Le vainqueur des vainqueurs. Il est le champion.
Il est ressuscité.
Oh, il est ressuscité. Il est ressuscité, est-ce qu'on peut acclamer le ressuscité, le véritable, le témoin fidèle?
Il est ressuscité.
Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Tu es ressuscité. Tu es ressuscité, Seigneur. Tu es ressuscité. Encore, tu es ressuscité.
Tu es ressuscité.
Il n'est pas seulement ressuscité. Ne l'a plus jamais revu.
Yeah.
40 jours après sa mort, il est monté dans les cieux, assis à la droite du Père. Et toutes choses ont été mises sous ses pieds. Oh, alléluia, il est le vainqueur. Bénissons notre Dieu, célébrons-le. Oh, alléluia.
Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.